France Inter.
Aujourd'hui, le pouvoir des cartes, raconté par...
Delphine Papin, rédactrice en chef au journal Le Monde, en charge des questions d'innovation cartographique.
Et Neptiste Svea, civilisationniste et contre-cartographe.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
Sabrina a 12 ans. Dans sa chambre, au-dessus de son bureau, il y a un planisphère accroché au mur. Une carte toute simple, rectangulaire, avec ses continents colorés, ses océans en bleu. C'est une projection de Mercator, comme des millions d'écoliers depuis des générations. C'est avec cette image du monde qu'elle a grandi. Un soir, en préparant un exposé, Sabrina tombe sur une question piégeuse. Qu'est-ce qui est plus grand, le Royaume-Uni ou Madagascar? Instinctivement, elle pointe le Royaume-Uni. Sur sa carte, il paraît massif. Et Madagascar, une petite île minuscule sous l'Afrique. Pourtant, la réalité est tout autre. Madagascar est deux fois plus vaste. Alors la jeune fille commence à douter si cette carte se trompe là-dessus. Que peut-elle cacher d'autre? Elle découvre alors que sur son planisphère, le Groenland semble rivaliser avec l'Afrique, alors qu'en réalité, 14 Groenlands pourraient y tenir. Que l'Europe paraît centrale et étirée, comme si elle avait plus d'importance que le reste du monde, et que tout cela vient d'un choix vieux de 5 siècles, la fameuse projection de Mercator. Créée en 1569 par un cartographe flamand, elle avait un objectif clair, aider les marins à ne pas perdre le cap en pleine mer. En déformant les surfaces, Mercator offrait aux navigateurs la possibilité de tracer une ligne droite sur une carte et de la suivre à la boussole jusqu'au bout. C'était une révolution pour l'époque, mais ce qui était une aide à la navigation s'est transformé avec le temps en une vision du monde. Et cette vision n'est pas neutre. En agrandissant l'Europe et l'Amérique du Nord, en rétrécissant l'Afrique et l'Asie, la carte a contribué parfois inconsciemment à nourrir un sentiment de supériorité occidentale. Les critiques ne manquent pas. Dans les années 1970, l'historien Arnaud Peters dénonçait la projection comme un instrument impérialiste. Il proposait une autre carte où l'Afrique reprenait enfin sa véritable ampleur. Une carte n'est jamais une photo fidèle de la Terre, c'est une construction. Elle raconte une histoire, exprime un point de vue, traduit des rapports de force. Alors Sabrina a décroché son vieux planisphère pour poser sur son bureau un globe terrestre, un objet un peu encombrant, certes, mais qui lui rappelle chaque jour que le monde est rond et que toute carte est toujours le résultat d'un choix. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Delphine Papin et Neptiste Svea, bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. À partir de demain jusqu'à dimanche aura lieu à Saint-Dié-des-Vosges la 36e édition du Festival de Géographie auquel vous allez participer, puisque demain, vendredi à 16h, vous allez discuter sur le thème du pouvoir des cartes, thème qui a retenu notre attention cet après-midi, qui nous a beaucoup inspiré. J'aimerais d'abord que l'on fasse connaissance avec vous pour mieux comprendre votre travail autour des cartes. Delphine Papin, c'est vous qui donc êtes en charge au journal Le Monde de l'innovation cartographique, c'est ça?
Oui, c'est ça.
De quoi il s'agit exactement?
Alors en fait, c'est l'idée au journal de toujours en faire un peu plus sur la cartographie. C'est un journal qui est très attaché à la carte depuis ses débuts en fait. Puisque 6 mois après sa création, il y avait déjà une carte en une. Une carte du plateau du Vercors avec un tracé en barbule à la main, etc.
En barbule?
Oui, enfin avec des barbules, pardon, je devrais plutôt dire ça comme ça, ce qui montrait le relief. Et ce journal a toujours été attaché à donner une place importante à la carte.
Sans... Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte au lecteur finalement?
Alors je pense que le choix d'avoir un vrai service infographie et cartographie, c'est très lié au fait qu'on est un journal qui avons eu toujours la chance de pouvoir traiter les élections dans leur ensemble, c'est-à-dire d'avoir les résultats la nuit, là où les autres journaux qui bouclent à 23h n'avaient pas la possibilité de faire ce fameux cahier résultat du
c'est
journal
ça,
Le Monde.
Puisque vous sortez en début d'après-midi. Hein.
Exactement. Et donc, on a eu cette tradition-là, grâce aux élections. Et puis aussi parce qu'on a eu, je pense, des directeurs de la rédaction qui se sont succédés, ou des chefs du service international, qui étaient des gens qui ont été sur le terrain à Jérusalem, et eux, ils vous disent, voilà, sans carte, on n'y comprend rien.
Donc c'est un outil qui permet d'expliquer l'état du monde, finalement, autrement?
Oui, c'est un outil qui... parle parfois mieux qu'un long discours et qui est d'une efficacité là où un texte peut parfois ne pas permettre de comprendre l'enjeu dans sa globalité. Donc en général, une carte, elle peut se suffire à elle-même. Souvent, au journal, elle est en appui d'un texte.
Vous avez publié fin 2024 avec Bruno Tertrais, l'Atlas des frontières, murs, migrations, conflits, c'est aux éditions Les Arènes. Nepti Setfer, vous aussi avec les cartes, vous faites un travail essentiel de mise en image des données pour qu'elles soient accessibles au plus grand nombre ?
Tout à fait. Disons que je procède à un travail de déconstruction des cartes, il faut commencer par là. On s'y emploie depuis les années 90 en fait, des historiennes et historiens de la cartographie l'ont fait.
C'est pour ça que vous êtes contre-cartographe ?
Voilà, ça consiste en l'appropriation de ce pouvoir qu'ont les cartes. Pourquoi ? Delphine Papin le dit, ça nous permet de comprendre le monde. C'est aussi quelque chose de très rassurant, c'est la seule image que nous ayons de notre demeure terrestre en fait. Donc nous sommes friandes de cartes. Et les contre-cartes vont justement jouer sur ce besoin que nous en avons, ce désir que nous en avons pour proposer un autre type d'information.
Mais pourquoi ? Parce que le pouvoir des cartes est parfois abusif, on pourrait dire les choses comme ça ?
C'est le même que celui de n'importe quel discours, de n'importe quelle image aussi. Nous sommes pieds et mains liés, soumises à ce pouvoir des cartes de dire le monde, comme elles sont produites dans certaines circonstances par certaines personnes avec certains moyens.
Oui.
Il convient de questionner ces circonstances et de proposer des alternatives, de construire un autre discours.
Donc c'est un outil éminemment politique, une carte.
Ah oui. Oui. Ah oui, dans tous les sens du terme.
Ouais. Mais ça, le lectorat, finalement, ne le sait pas forcément, l'oublie.
Alors oui, je pense que vous avez raison de le souligner. D'abord parce que quand on fabrique une carte au sein du journal Le Monde et qu'on a une source qui va être une source universitaire, donc à ce moment-là, en général, le lecteur, il questionne pas beaucoup cette image. D'ailleurs, on le voit, en fait, par exemple, sur le conflit israélo-palestinien, on a eu tout un tas de critiques sur les réseaux sociaux, sur la manière dont étaient écrits les articles, sur le positionnement ou pas le positionnement, ce qu'on a plus traité, pas assez traité. Et sur les cartes, on a très peu de retours, en fait. Donc c'est vrai qu'il y a ce pouvoir des cartes et même cette intimidation que peuvent avoir le lecteur par rapport à cette image dans laquelle il plonge. Sans doute que c'est aussi le moyen de comprendre des choses qu'on a dit rapidement ou qu'on a écrit rapidement et que tout d'un coup, les choses s'éclairent. Mais il y a peu de remise en cause, même de nos cartes dans le journal. Ça arrive, hein, on a des très bons courriers de lecteurs. Mais en général, d'ailleurs, c'est des excellents courriers de lecteurs qui nous font une critique qui est tout à fait justifiée. On aurait pu avoir une autre approche.
Voilà. Nepti Setfer, dans quel contexte les contre-cartographes sont arrivés justement dans votre discipline ?
Alors, il faut être clair sur le fait que la contre-cartographie n'est pas une discipline. C'est une autre façon d'aborder la cartographie. On me pose souvent la question, mais comment me former à la contre-cartographie ? Il n'y a pas de formation. C'est tout simplement revenir à la racine de la production de la carte. Vous, en tant que productrice ou producteur de la carte, vous n'avez pas besoin d'être experte ou expert, comme c'est le cas pour Delphine.
Oui.
Ça peut être madame ou monsieur tout le monde qui va produire sa carte sur des sujets qu'elle ou il maîtrise bien. C'est-à-dire des sujets qui, d'habitude, ne sont pas la base de production cartographique parce qu'ils n'intéressent pas la vie quotidienne des gens dans un village, là je reviens des Pyrénées, dans un village au pied du Canigou, ça n'intéresse pas grand monde. Par contre, ça peut intéresser au niveau local, régional, et cette information, vous, moi, nous sommes productrices de données empiriques de nos pratiques spatiales qui disent beaucoup, beaucoup de choses.
Alors parlons par exemple du féminisme, hein, puisque vous publiez aux éditions de La Découverte « Pour un spatio-féminisme de l'espace à la carte », c'est votre dernier ouvrage. En quoi justement les cartes peuvent devenir aussi un outil de lutte pour le féminisme ?
Ça fait quelques années que je travaille sur la contre-cartographie et la cartographie, et je me suis rendu compte que les épistémologies féministes étaient toujours mobilisées par les contre-cartographes. C'est-à-dire qu'on se pose la question de la façon dont on construit cette connaissance géographique, qui n'est jamais objective, qui n'est jamais neutre, qui est soumise à énormément de biais, tout simplement parce que n'importe quelle connaissance, elle est située. Donna Haraway, la grande féministe, dit « nous avons un regard situé ». ce que nous disons est biaisé par l'endroit d'où nous parlons, les conditions dans lesquelles nous parlons, les possibilités que nous avons de parler aussi. Et tout ça, il faut en avoir conscience. Et ça, ça a été le grand travail des féministes depuis les années 70, ouais. de questionner la production scientifique, quelle qu'elle soit, et surtout de dévoiler ces biais genrés. On dit toujours la connaissance, la raison, le savoir, c'est quelque chose qui est masculin, qui est présenté comme masculin et universel, ce qui, bien sûr, est erroné.
Donc, il y a l'idée de la toponymie, hein. C'est donc les noms que l'on donne aux lieux, qui est un domaine vraiment sur lequel il y a un travail particulier qui est fait dans ce cadre-là, par exemple, ou pas ?
Par les contre-cartographes, oui, bien sûr,
ouais.
bien sûr, mais on touche à absolument tous les sujets. La toponymie, c'est un champ intéressant, parce que la carte, c'est un palimpseste.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on gratte ce qui était écrit sur le support et on y inscrit autre chose. Mmh. Et c'est le pouvoir dominant qui va inscrire ces nouveaux toponymes, donc ces nouveaux noms de lieux, effacer les anciens. Et il y a des cas où, par exemple, Israël-Palestine, on n'efface pas vraiment les anciens, on récupère une sonorité pour s'inscrire quand même dans l'histoire,
oui.
en effaçant ce qui est gênant pour le nouveau pouvoir.
Delphine Papin, quand un pouvoir justement décide de rebaptiser un lieu comme Trump l'a fait avec le Golfe d'Amérique, anciennement oui. le Golfe du Mexique, comment une rédaction choisit ce qu'elle écrit sur sa carte ?
Alors, d'abord, en général, on se réfère pas à un président qui fait un choix. On se réfère aux Nations Unies qui, enfin voilà, on se réfère. C'est notre atlas. Mm-hmm. Et quand il y a un débat, on peut inscrire sur une carte. Je pense au Golfe Persique. Est-ce qu'on met Golfe Persique, Golfe Arabique ? Est-ce qu'on met le Golfe Arabo-Persique ? Ça, c'est une difficulté que la rédaction a avec toute la question derrière, qui est des difficultés qu'on peut avoir avec les ambassades. Sur ces questions-là.
Ouais.
Quand on met le Golfe Persique, les Saoudiens ne sont pas contents, et quand on met le Golfe Arabique, les Iraniens ne sont pas contents. Donc, il y a quand même à la fois des lieux qui ne posent aucun problème, et puis il y a des lieux qui sont aussi recherchés par les diplomaties pour asseoir leur pouvoir sur une mer, sur un golfe. Alors, c'est souvent quelque chose qui se fait, je dirais, plus sur les mers que ouais. sur les terres. Sans doute parce que les frontières maritimes sont en train d'être dessinées, elles ne sont pas encore toutes dessinées,
oui.
que le monde sur Terre est plus fini que sur les mers. Mais ce qui est intéressant dans le cas, pour reprendre ce que vous évoquiez sur Donald Trump et sur le Golfe d'Amérique, c'est que lorsqu'on a un Google Maps qui, tout d'un coup, lui joue le jeu du président,
oui.
en fait, les rédactions, que ce soit une rédaction française comme le journal Le Monde ou même toutes les rédactions, elles font peu de poids par rapport à cette espèce de globe terrestre qu'on a chacun dans notre poche aujourd'hui.
Mais c'est-à-dire que Le Monde va publier quoi, lui ? Comment il va nommer ?
Non, nous, on laisse Golfe du Mexique.
Mexique.
Nous, il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Pour l'instant, j'ai pas eu à le cartographier, mais oui.
Ouais. Les petits sept sphères, justement, sur Google Maps, on croit avoir accès à la réalité du monde en direct, hein, avec ces oui. outils. Quels sont les risques, finalement, derrière cette illusion de la précision, de la fausse précision ?
Les risques, ce ne sont pas des risques, ce sont des effets bien, bien concrets. Quelque part, c'est imposer une vision de l'espace qui est la vision occidentale, c'est-à-dire la carte, ce sera la métrique, ce sera l'espace euclidien, c'est-à-dire qu'on va mesurer la distance entre vous et moi, il y a 2 mètres par exemple.
Oui.
Et la carte qui sera juste à ce niveau-là, elle sera considérée comme scientifique et objective, c'est elle qui s'imposera. Or, les cartes ont toujours existé, c'est quelque chose d'anthropologique, nous sommes tout le temps en train de faire des cartes dans notre tête, tout simplement parce que nous sommes des corps qui se déplacent dans l'espace et nous en avons besoin. Donc, pour nous, c'est très facile de le transposer sur un document. Et cette façon de faire des cartes au quotidien, banale, avec nos connaissances vernaculaires et empiriques de l'espace, elle a été complètement occultée pour favoriser cette idée de la carte scientifique. Et elle a éliminé tous les autres, en fait. Donc, on est vraiment devant un résultat et pas vraiment face à un risque.
La carte éclaire ou influence, on va voir dans un instant ce qui se passe quand la société civile s'en empare, pour contester aussi la carte dominante. Et vous serez donc présents toutes les deux à Saint-Dié-des-Vosges demain pour une discussion sur le pouvoir des cartes. Come,
a dog cause I'm chasing a kitten. But really I'm stressed so this car get the whipping. I'm whipping, I'm whipping, I'm revving my engine. They sending me texts. If I don't reply then they be the tripping. I'm copping a ticket, I'm getting some distance. Blow me some kisses.
Sometimes I feel
out my teeth, I can't go to the dentist. I'm making decisions with no consequences. Please don't call me shallow, I'm sensitive. Running away with these Benjamins. TSA like,
oh, it's him again. Sometimes I feel uncomfortable, so I
Escapiste, c'était Duckworth sur France Inter.
France Inter. La Terre au carré.
Les cartes officielles influencent profondément notre façon de concevoir le monde. Même ma façon de me déplacer en ville est influencée par la façon dont elles nous sont fournies. J'utilise le terme contre-cartographie parce que j'inclus dans mes cartes des choses qu'on n'inclurait pas normalement. J'inclus donc l'individu, l'expérience individuelle dans les espaces, j'y ajoute le quotidien et le banal. Je suis allée sur les lieux, je marchais, j'utilisais mon corps pour mesurer les espaces. Sur place, j'essaye de ne pas me fier aux cartes préétablies. Il s'agit donc de compter les pas, de mesurer la hauteur des espaces avec mon propre corps. Et d'une certaine manière, de forcer la carte à venir de moi plutôt que d'une carte prédéfinie. Cette façon de faire, je la considère comme une contre-cartographie.
Celle que nous venons d'entendre s'appelle Larissa Fassler. C'est une artiste canadienne qui vit à Berlin, traduite par Lucille Jour de Moalic. Delphine Papin, vous êtes avec nous cet après-midi pour parler des cartes, rédactrice en chef en charge de l'innovation cartographique au Monde. Et Neptis Tver, civilisationniste et contre-cartographe, comme cet artiste que nous venons d'entendre et qui parlait de la mobilité influencée par les cartes. Donc là, on voit bien que ce n'est pas une professionnelle de la cartographie, c'est une citoyenne, une artiste, et elle peut aussi proposer ses propres cartes.
Bien sûr. Les artistes se sont emparés de la cartographie, je dirais, au tournant du millénaire. Et c'est vrai qu'une œuvre d'art qui représente l'espace de cette façon-là, c'est absolument attirant. Donc oui, et ce qui est intéressant, elle dit « je prends mon propre corps pour mesure ». Pas le corps masculin, le modulor de 1,80 m du Corbusier, le corps d'une femme. Et ça va changer la façon de donner forme aux espaces pratiqués.
Ouais, mais qu'est-ce qu'on produit alors? Prenons cet exemple. Qu'est-ce qu'on peut produire comme carte à partir de son propre corps?
Bien, je pense aux cylindres spatio-temporels que j'ai mis dans mon livre. Les déplacements des femmes et des hommes sont par exemple très différents. Les femmes et les hommes pratiquent l'espace autrement. Une femme, notamment parce qu'elle est en charge du care, aura des déplacements beaucoup plus fragmentés, utilisera d'autres moyens de transport et à la fin de la journée se rendra compte qu'elle a probablement parcouru plus de distance que son conjoint qui, lui, peut-être, est allé travailler. Il y a mille et une façons d'analyser nos pratiques spatiales qui commencent avec la façon dont nous nous déplaçons, de la représentation que nous avons de notre corps, nos mobilités, pourquoi nous déplaçons-nous en ville, pour quelles fonctions, les moyens de transport utilisés, etc. Les représentations que nous avons, les appréhensions qu'ont les femmes à qui on a inculqué la dangerosité de l'espace urbain, qui n'est absolument pas fondée, et toutes les stratégies d'évitement, de contournement qu'elles vont déployer. Donc il y a mille et une choses à lire dans les pratiques spatiales, quelque chose qui est malheureusement malheureusement occultée. On en parle très, très rarement. C'est pour cela que j'ai écrit ce livre.
Qui s'appelle « Pour un spatio-féminisme de l'espace à la carte ». C'est aux éditions de La Découverte, ça vient de sortir. Delphine Papin, ça veut dire que le citoyen aussi peut contribuer à la cartographie aujourd'hui ?
Oui, alors il y a cette base de données cartographiques qui est réalisée, qui s'appelle OpenStreetMap, où chacun peut rajouter un morceau de son territoire. Mmh. L'enjeu, c'est qu'il y a des territoires qui sont extrêmement précis et extrêmement détaillés, parce que c'est les personnes qui construisent ces cartes ont accès à Internet et ont accès aux outils pour tracer les cartes, mais dès qu'on va dans des zones où on n'a plus ces outils-là, en fait, le monde devient presque inconnu. Mmh. Donc c'est à la fois un avantage, parce qu'on a sans doute des cartes qu'on n'avait pas avant sur certains espaces, et puis c'est un inconvénient dès lors qu'on quitte le monde ultra développé.
Et pour contribuer à quoi, par exemple ? Les citoyens peuvent contribuer à alors, quel type de carte hein?
Dans les autres cartes que nous, on utilise, par exemple, sur un conflit comme la Russie et l'Ukraine, où on n'a pas accès au territoire, on peut avoir les citoyens qui, en postant des informations, en disant « ici, c'est une route, ou au bout de cette route, il y a l'armée russe, ici, il y a eu un obus, ici ». Voilà, ça, c'est des cartes partagées qu'on peut utiliser, nous, dans le traitement de ce qu'on fait, en particulier sur des zones où les journalistes n'ont pas accès.
Oui.
C'est le cas aussi bien à Gaza que sur le conflit dans le Donbass ou en Crimée. Les journalistes n'ont pas accès à ces territoires-là. Et donc, c'est une information qui peut être précieuse, qu'on doit recouper, évidemment. On ne prend pas comme tel, mais qui nous aide à réfléchir.
Neptis Tver, ça veut dire que la carte, c'est aussi quasiment un organisme. C'est quelque chose de très vivant, qui évolue selon la situation en permanence ?
Absolument. C'est un instantané d'un moment X dans le temps. J'aimerais rebondir sur OpenStreetMap, qui est une plateforme collaborative absolument formidable, indispensable pour documenter le monde par rapport aux situations de conflit ou de catastrophes naturelles. Mais la grande interrogation qu'on peut avoir par rapport à cette vision du monde, elle repose sur le fait que ce sont bien les pays riches qui renseignent OpenStreetMap, donc on peut s'imaginer qu'effectivement, il y a les infrastructures, il y a Internet, il y a le loisir que nous avons peut-être. Par contre, on pense que seulement entre 5 à 10% de femmes renseignent OpenStreetMap. Donc ça veut bien dire que ce biais repose sur autre chose, c'est notamment le fait que certaines personnes se sentent légitimes pour dire le monde et d'autres non.
Donc les hommes,
Les pauvres et les femmes n'osent pas dire le monde, apparemment.
Et voilà. Ça, c'est effectivement une observation, un fait.
C'est un fait.
Qui vous choque énormément ?
Non, ça s'inscrit dans toute une litanie de, de problématiques. Mmh. Voilà, nous avons un problème avec la connaissance, c'est clair. Elle s'est construite d'une certaine façon, notamment en Occident. Et le temps est peut-être venu de réviser cette façon de faire.
Ouais. Voilà. Delphine Papin, comment faire alors, peut-être pour changer les choses ?
Alors... La manière dont nous, on construit des cartes, souvent, c'est une somme de connaissances. La manière dont on va penser, à un moment donné, un récit cartographique autour d'un conflit. Mmh. Et donc, on est moins sur des cartes aussi fines, sur des territoires aussi fins, sans doute à tort, parce qu'on devrait aussi traiter ces questions-là. On le fait moins. On a essayé un jour de faire une carte des cours d'école,
oui,
pour voir l'espace qui était attribué aux filles et l'espace qui était attribué aux garçons. Mais on est plutôt sur des échelles où on va traiter les enjeux du soutien. Et donc là-dessus, on va raconter les rapports de force sur ces territoires-là, et donc souvent des rapports militaires. Toute la question est comment on trouve l'information et comment on raconte ces histoires-là, à la fois en y mettant de la géographie, à la fois en y mettant des données quantitatives, et à la fois en y ajoutant une connaissance qui peut être soit un reporter qui revient du terrain, soit des intersections d'ensemble qui me permettent de mieux comprendre et de raconter ce que je considère à cet instant-là intéressant pour le lecteur.
Sur la question de la subjectivité des cartes et selon la position géographique et le pays d'où l'on vient, et je vous propose d'écouter Jean-Christophe Victor qui s'exprimait sur cette question sur France Culture en 2016.
En fait, les tracés frontaliers sont adaptés à l'état commanditaire. C'est-à-dire que si vous êtes à Moscou et que vous regardez Google Maps, vous voyez que la Crimée est russe. Maintenant, si vous êtes à Bruxelles, dans l'Union européenne, ou si vous êtes à Kiev, vous voyez que la Crimée n'est pas russe. Et donc, si la direction de Google s'y oppose, elle n'a pas le marché. Alors, vous me direz, le marché ukrainien, ce n'est pas très grave. Mais le marché russe, et surtout le marché chinois, indien ou autre, c'est plus important. C'est une vraie malhonnêteté intellectuelle, politique, cartographique et diplomatique.
Jean-Christophe Victor, donc, sur France Culture en 2016. Neptisphère, pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, il y a évidemment le poids des GAFAM, le poids d'une industrie.
Géo-GAFAM.
Et vous employez ce terme de géo-GAFAM que je ne connaissais pas.
Oui.
Qu'est-ce qu'il exprime justement cela ?
Il parle de marché, c'est clair, c'est clair. Il faut savoir que la carte, c'est de la donnée, surtout au niveau géopolitique. La donnée, c'est de la marchandise.
C'est un business.
Voilà, c'est tout. Et le danger de ces velléités politiques, de renommer un lieu, il est peut-être moindre par rapport à ce qui se profile derrière. C'est exactement comme pour la carte de Mercator. Quand Mercator fait sa carte, il n'a pas d'intention malveillante.
Au XVIe siècle.
Lui, c'est un mathématicien, un savant de l'époque.
Il veut aider les navigateurs, c'est
voilà,
ce qu'on racontait tout à l'heure.
C'est tout. Mais faire des cartes, c'est extrêmement cher à l'époque et ce qui va être retenu par l'histoire, c'est ce modèle de la projection très déformée pendant 500 ans.
Mais c'est incroyable
voilà.
Ça.
Et d'ailleurs, lorsque vous dézoomez votre carte sur le téléphone portable, si vous prenez une fois votre Google Maps, à la fin des fins, donc, vous obtenez la carte de Mercator.
Ouais.
Donc, ce n'est pas un globe qui tourne. Ils auraient très bien pu faire un globe qui
c'est
tourne. Ils n'ont pas fait ce
c'est
choix-là.
Toujours
c'est toujours on retombe
cette carte sur laquelle
cette projection.
On tombe.
Et c'est d'ailleurs ce qu'a dénoncé l'Union africaine cet été, au mois d'août, en disant qu'il fallait, entre guillemets, décoloniser la carte.
Absolument.
C'était le propos.
Et mettre l'Afrique
porté.
À sa juste place, qui n'est pas une petite place, loin de là.
Oui. Alors, je pense que l'enjeu, il est vraiment au niveau, je ne connaissais pas ce terme, mais je trouve très intéressant, des géo-GAFAM, parce que lorsque vous prenez un livre scolaire, vous verrez que les profs d'histoire géo actuels utilisent des cartes multiples, ils n'utilisent pas du tout la Mercator. Quand ils doivent raconter les pôles, eh ben, ils font une projection polaire. Ils peuvent utiliser une Bertin quand ils doivent discuter de l'Europe et une Peter s'ils sont concentrés sur l'Afrique. Ça, ils savent parfaitement le faire et les livres scolaires sont très riches en projections cartographiques. Mais l'enjeu, il est sur les géo-GAFAM.
Voilà. Le débat, il est aussi symbolique, je pense, pour l'Afrique, pour l'Union africaine. C'est tout. La carte, c'est du symbole. Des lieux de mémoire, par exemple, la forme, l'hexagone pour la France, c'est un lieu de mémoire.
Ouais.
Ô combien puissant. Et on le retrouve sur nombre d'affiches au moment des conflits, au moment des paix aussi. Disons, c'est tellement puissant, cet imaginaire est tellement puissant qu'il va vraiment formater notre vision du monde. Et c'est pour ça que l'Union africaine se bat. En fait, sans que le redressement de la taille, cette Afrique plus longiligne et à ses vraies proportions, sans que cela ne nous dise quoi que ce soit du PIB, de la démocratie, des possibilités dont regorge ce continent extrêmement riche, en fait. Voilà, on est dans le symbolique.
Dossier cartographie et contre-cartographie, cet après-midi, c'est le thème de la Terre au carré.
Y a fait comme je dis go. S'il y a un péché à se faire, moi je dis go. Pour mes orphelins, mes enfants, je dis go. T'es autour, un peu slit, tu me donnes le go.
Deodara et Luigi. Go à l'instant.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Je n'aime pas la façon dont les cartes pensent connaître l'histoire. Je n'aime pas leur certitude. La cartographie est une idée ridicule. La cartographie, comme vous le savez, est une invention du premier tiers du 19e siècle, en grande partie un effort de la part des Allemands pour élever la pratique de la cartographie au rang d'activité universitaire. La cartographie, c'est un nom prétentieux pour un tas d'absurdités.
Voilà un artiste qui s'appelle Dennis Wood pour critiquer la cartographie, pour vous faire réagir. Delphine Papin, vous qui êtes en charge de l'innovation cartographique au monde et Neptisphère civilisationniste contre cartographe. Vous serez toutes les deux, je le rappelle, demain à Saint-Dié-des-Vosges pour la nouvelle édition du Festival de Géographie. Je vous voyais réagir, Neptis Serre, au propos de cet artiste qui n'aime pas les certitudes des cartes.
Qui est aussi géographe, ouais, oui, vous qui, êtes est très avec... polémique, qui est très, très
Mais est-ce
polémique.
Que vous êtes d'accord avec ça, sur les certitudes des cartes hein?
Oui.
Parce que c'est
oui,
ce que vous critiquez aussi, finalement. Avec
absolument,
la contre...
avec beaucoup moins de violence. Oui.
Pourquoi il est violent, lui?
J'ai pu discuter avec lui à Berlin.
Oui.
Il découpe des cartes, des atlas à la scie circulaire. Non, non. Nous avons besoin de cartes scientifiques, soyons clairs là-dessus. Nous avons besoin de pouvoir nous déplacer, nous avons besoin de planifier, d'aménager l'espace. Et la contre-cartographie ou la critique de la cartographie, elle vient en complément. Elle vient, surtout au niveau local, compléter l'information par des données nouvelles, tout simplement. Ouais.
Mais est-ce que la carte exacte existe, Delphine Papin ?
Non, mais je ne crois pas que ce soit l'objet de la carte. L'objet, c'est... D'abord, la cartographie, elle peut servir à se repérer, et elle peut servir, ça peut être un outil d'analyse, ça peut être un outil diplomatique. En fait, elle a beaucoup de fonctions différentes. À partir du moment où vous mettez le monde sur un format A4, de toute façon, vous avez renoncé. Donc l'enjeu, c'est pas qu'elle explique tout, c'est au contraire, d'abord, chaque carte a un auteur et à un public. Donc, au journal, on est toujours deux ou trois à faire une seule carte. Et d'ailleurs, vous avez plusieurs signatures en bas d'une carte. Nous, on essaie de faire des cartes plutôt qui sont d'analyse, mais on peut faire des cartes pour se repérer, simplement savoir où se trouve cette ville, parce qu'on a un article et on fait une carte de localisation. Ou si on a un phénomène environnemental important, on a besoin de savoir si le fleuve a débordé d'ici jusqu'ici ou d'ici jusque-là. Donc ça, c'est chaque carte a une fonction différente et on peut pas faire une généralité, je dirais. C'est toujours d'ailleurs compliqué quand on nous invite pour parler de cartes parce qu'on fait pas toujours les mêmes. Travail incroyable de l'IGN n'est pas celui des cartographes du journal Le Monde. Chacun a son rôle.
Des petits sphères.
Oui, nous avons une grande méconnaissance en fait de ce qu'est la carte et je pense que les temps sont mûrs pour mettre toutes ces questions à plat. Donc nous préparons par exemple avec le laboratoire médiation à la Sorbonne en septembre 2026 un grand colloque international où nous aborderons justement ces questions de la définition de ce qu'est la carte, de ce qu'est la contre-carte et du changement de paradigme que l'on sent dans la discipline aujourd'hui où est apparu ce phénomène de la contre-cartographie.
Donc il y a quelque chose qui bouge en ce moment.
Ça bouge.
Mais ce phénomène de la contre-cartographie, il existe depuis quand en fait ?
Il y en a probablement toujours eu. Alors, on a des traces de contre-cartes des années 60, notamment en Amérique latine. Par exemple, quand l'Église essayait d'aider les autochtones à défendre l'usage de leur espace, ouais, puisqu'ils n'ont pas de titre de propriété. Mais ça commence à devenir visible à partir des années 70, quand la recherche universitaire rencontre l'activisme pour les droits civiques aux États-Unis. Ça se passe à Détroit. Il y a, par exemple, un petit département, le DGEI, Détroit Geographical Expedition Institute, qui est formé par un géographe très connu, William Bungie, et une jeune activiste des droits civiques, Gwendoline Warren. Et on part en expédition dans la ville et on cartographie ce qu'on voit à Détroit, ville à forte population noire, donc pauvre. Et là, on a des traces des premières contre-cartes très officielles. Mais je pense qu'on a depuis très longtemps fait des contre-cartes et la plupart des cartes, de toute façon, Nous ne les voyons pas, nous ne savons pas qu'elles sont faites, qu'elles existent et elles disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues.
Delphine Papin, vous disiez qu'au monde, en tous les cas, il y a des choix humains qui sont toujours derrière les cartes que vous proposez au lecteur. Avec l'intelligence artificielle, on peut produire, j'imagine, des cartes très très vite, en quelques secondes. Est-ce que ça bouleverse aussi votre travail aujourd'hui? Est-ce qu'il peut y avoir des avantages ou au contraire des inconvénients?
Alors aujourd'hui, au journal Le Monde, on a signé une charte entre journalistes pour ne pas utiliser l'intelligence artificielle. Je crois que l'enjeu, il n'est pas encore sur l'intelligence artificielle. Bon, voilà, on va avoir sur les réseaux sociaux des tas de gens qui vont produire des cartes de plus en plus rapidement, etc. Je crois que l'enjeu, il est sur les bases de données qui nous sont fournies, qu'on trouve assez rapidement et qui nous permettent de géolocaliser tout un tas de choses.
Oui.
En oubliant, encore une fois, moi, je pense qu'une carte, c'est une somme de connaissances. Et si on ne fait que projeter sur un planisphère des données qui ont été géolocalisées, finalement, on n'a pas besoin du géographe, on n'a pas besoin du cartographe, et ça, tout le monde peut le faire.
Mais c'est que de la donnée, en fait. Hein.
C'est que de la donnée qui est placée sur une carte. Mais ça, effectivement, l'intelligence artificielle, ou quelqu'un qui peut être un infographiste, ou qui peut être un informaticien, peut projeter rapidement des cartes et faire des cartes qui semblent très justes. La base de données vient d'un grand institut, on le projette sur une belle carte, on sait faire de l'esthétisme dessus, et tout d'un coup, elle a valeur de vérité. Sauf qu'en fait, derrière, il n'y a pas eu de réflexion. Et ça, je dirais que c'est plutôt le danger de l'intelligence artificielle ne me fait pas vraiment peur pour l'instant, parce que ça sera simplement une continuité. Et c'est plutôt là, c'est qu'est-ce qu'on fait et pourquoi la donnée est devenue reine. La donnée quantitative est devenue reine et a pris le pas sur la donnée qualitative.
Oui, donc c'est un piège dans lequel il faut éviter de tomber.
Oui, moi je pense que ça c'est le piège, parce qu'on a besoin de rapidité, donc c'est pas tellement le cartographe qui est remis en cause, mais c'est plutôt la personne qui va lui dire « j'ai besoin d'une carte sûre et produis-la moi rapidement ». Non, il y a une discussion. Qu'est-ce que je fais de cette carte? Pour qui je la fais?
Les petits sphères.
Plus il est facile de faire des cartes, moins on les maîtrise, et moins on maîtrise leurs sources, moins on est consciente de l'intention sous-jacente. Et je pense par exemple à l'IGN qui met à disposition par Géoportail une quantité incroyable de cartes et qui vous donne la possibilité de les traiter vous-même, de vous les approprier, mais qui est conscient du danger évoqué par Delphine Papin, qui a lancé par exemple la République des cartes, qui est un groupe qui va travailler à la réflexion sur toutes ces problématiques. On est en fait en phase de dépassement par rapport à la production cartographique générée automatiquement et produite à toute vitesse, sans regard critique en fait.
Neptisphère, le spatio-féminisme, donc c'est l'objet de votre ouvrage. Est-ce que c'est seulement une sorte de grille de lecture critique, ou est-ce que c'est un outil pratique que par exemple des collectivités pourraient utiliser aujourd'hui pour essayer de donner des exemples concrets?
Alors, ce qui m'a motivée pour écrire cet essai, c'est le constat que les épistémologies féministes, la façon dont on construit la connaissance, étaient omniprésentes dans la contre-cartographie, mais aussi que nous, êtres humains, nous sommes absolument inconscientes du fait de la spatialité de nos vies. Pourtant, tout se fait dans l'espace. Comme dit, nous sommes des corps, nos activités sont spatiales, donc cartographiables, et nous occultons complètement le fait que nous pouvons lire l'espace et y déceler certaines pratiques, certains rapports de domination. Pour ce qui concerne le féminisme, c'est ça. Donc moi, j'invite vraiment à questionner. Il y a énormément d'ateliers où des femmes posent sur la carte leur quotidien. Leur quotidien, c'est quoi? C'est leur pratique de l'espace public, leur mobilité. Je reviens d'un très bel atelier à Prades, dans les Pyrénées-Orientales. On a produit plusieurs cartes, dont la carte du désert médical. Alors, on en parle, c'est un thème. Après, il faut voir ce que ça donne dans la pratique. Et quand une femme dit, mon enfant, quand il doit aller chez le dentiste, je dois l'amener à une heure de route d'ici. Et quand sur la carte, un groupe se réunit autour d'une carte et arrive à faire donner l'image du territoire de ce désert médical, ou bien des freins à la mobilité douce. Beaucoup de municipalités sont désireuses d'augmenter les mobilités douces, mais n'ont pas les infrastructures et ne réfléchissent pas jusqu'au bout la façon dont ces infrastructures doivent être mises en œuvre.
Donc c'est une façon de faire communauté aussi quand même.
Ah, tout à fait.
Et de plonger la carte dans la vie citoyenne, concrète.
C'est ça sa dimension politique. Elle n'est pas dans la contestation. Elle est dans le fait qu'en tant que citoyenne et citoyen, nous sommes politiques. Et l'espace, c'est pour ça que je cite souvent Hannah Arendt, mais c'est elle qui l'a théorisé le mieux. L'espace, c'est l'endroit où a lieu, dans l'entre-humain, a lieu le politique. Et donc, faire des cartes de cet entre-humain, de cet espace, c'est ça qui est politique. Et effectivement, à chaque atelier, parfois il y a même les élus locaux qui sont intéressés par les productions parce que ce sont des sources premières de l'information, non filtrées. Ce n'est pas du top-down, ce n'est pas pris, implémenté par en haut, ça vient d'en bas. Ça vient des gens qui choisissent leur thématique et leur problématique et ont un avis et peuvent étayer leur avis par des cas concrets.
Quel regard vous portez là-dessus, Delphine Papin ? Parce que c'est quand même assez différent du travail de cartographie que vous faites au Monde. Hein.
Alors, c'est très différent et je vois un point commun intéressant, c'est que souvent, la carte, quand vous la posez sur une table, que ce soit une carte qui évoque des territoires en guerre ou que ce soit une carte qui évoque un espace vécu, en fait, elle est un outil de dialogue. C'est-à-dire qu'on va commencer à pouvoir discuter chacun en disant « mais ça, ce territoire-là, je le vis comme ça ou je le vis comme ça ». Et en même temps, souvent, elle dépassionne les propos, parce que tout d'un coup, on se met sur la carte et on la regarde, on se dit « ah, c'est ça la réalité de terrain, tiens, comment est-ce que je fais un État sans territoire ?» Voilà, c'est aussi... La carte, elle permet cet échange-là. La carte, je pense que c'est un bon outil de démarrage d'un débat, et peut-être aussi... aussi la terminer de cette manière-là, mais c'est intéressant en ça.
Très bonne transition pour parler du débat auquel vous allez participer demain, vendredi, donc à Saint-Dié-des-Vosges. Ce sera à 16h à l'espace Georges Sadoul sur le pouvoir des cartes. Justement, vous serez entouré d'autres invités à l'occasion donc de la nouvelle édition du Festival de Géographie de Saint-Dié. Le programme est en ligne sur fig.saint-dié-des-vosges.fr. On pourra donc vous y rencontrer demain.
Oui, et je peux ajouter qu'il y aura une exposition de cartes faites la veille dans des écoles, dans une école, dans des classes des Vosges. Sur l'espace scolaire, de jeunes élèves sont invités à cartographier leurs pratiques de l'école.
Et à une autre échelle, il y aura l'exposition aussi sur Israël-Palestine, toutes les cartes qu'on a produites au journal.
Merci beaucoup à toutes les deux. Je renvoie sur vos ouvrages Neptisphère, ça s'appelle Pour un spatio-féminisme de l'espace à la carte, publié par Dominique Carré, c'est votre éditeur, avec les éditions de La Découverte. Un précédent ouvrage s'appelait Cartographie radicale, exploration, toujours chez les mêmes éditeurs. Et puis Delphine Papin, on peut citer également l'Atlas des frontières, murs, migrations, conflit aux éditions Les Arènes, avec vos deux confrères et consoeurs, confrères ?
Oui, Bruno Tertrais et chez Martine Laborde, qui a grandement œuvré sur la cartographie.
Merci voilà, beaucoup.
J'annonce que mon prochain ouvrage sur la cartographie va paraître au printemps.
Quel sera le thème ?
La cartographie, laissez-vous surprendre.
Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux. Et merci à Joël Levert qui a préparé ce dossier aujourd'hui, Jérôme Boulet qui était à la réalisation, Philippe Duclos à la technique et Lucie Sarfati pour la programmation et la coordination de La Terre au Carré.